Bonjour à tous. Aujourd'hui, je retrouve Mélanie Lemonnier, qui est thérapeute intuitive médiumnique. Mélanie est déjà intervenue dans l'épisode 2 des Nouveaux Hippies. On avait parlé de la mission d'âme et de son incarnation. Bonjour Mélanie.
Bonjour Clélia.
Alors aujourd'hui, j'interroge Mélanie sur le thème des relations d'âme, toujours en fonction de sa propre expérience. Dans l'épisode 2, tu avais abordé rapidement un concept qui était celui des familles d'âme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui. Quand je parle de famille d'âme, moi je fais référence à la famille, à notre famille céleste, à la famille de là d'où on vient, c'est-à-dire et où on va retourner une fois que notre incarnation sur Terre elle sera terminée. C'est finalement une famille qui peut ressembler un petit peu à la famille qu'on peut avoir, une famille qu'on peut avoir au niveau terrestre, mais qui est beaucoup plus grande, et où on a des liens d'âme qui sont extrêmement forts et profonds. Après, je sais qu'on peut aussi parler de famille d'âme dans le sens où on l'entend le plus, c'est plutôt les catégories de famille d'âme. Et là, je pense notamment à Marie-Lise Labonté, donc, qui avait dans son livre identifié différentes catégories de famille d'âme, 13 il me semble, où par exemple on a la famille des enseignants, la famille des guérisseurs, la famille des passeurs d'âme. Voilà, donc on a plusieurs comme ça catégories de famille d'âme. Et le fait de savoir un petit peu à quelle famille d'âme on appartient, ça peut nous donner des informations sur notre chemin de vie, sur ce qu'on est venu finalement réaliser, expérimenter sur Terre, un petit peu, entre guillemets, notre mission de vie, notre chemin de vie. Voilà, c'est vrai que moi là du coup quand je parle de famille d'âme, je fais pas vraiment référence à ça, dans le sens où ce qui me parle le plus par rapport à mon expérience, moi c'est plutôt ma famille céleste. Et par rapport aussi à ces familles d'âmes, je pense qu'à la fois c'est intéressant de connaître un petit peu les différentes catégories de familles d'âmes parce que comme je disais, ça nous donne quelques informations sur notre propre chemin, mais en même temps pour moi il ne faut pas non plus tomber dans cette recherche de s'individualiser dans une famille en particulier, parce que ça pourrait tout simplement laisser l'ego s'emparer de ça et dire « Ah ok, je fais partie de telle famille. » Alors qu'en fait, pour moi, c'est vraiment, on est juste dans un grand tout. Donc oui, en fait, il y a dans ces catégories de familles d'âmes, il y a pour moi certaines âmes qui vont aller faire même des stages dans plusieurs catégories en fonction des incarnations. En fait, plus on avance dans la roue de l'incarnation et plus finalement on a été dans ces différentes catégories de familles d'âmes. Et c'est pour ça qu'il y a même des âmes qui peuvent se retrouver dans quasiment presque toutes les catégories de familles d'âmes et qui ont des capacités et des dons finalement qu'elles ont naturellement et elles n'ont pas besoin de faire grand-chose pour avoir pour les réactiver exactement. Donc voilà, donc moi en tout cas quand je parle de famille d'âme, c'est plutôt notre famille céleste, donc là d'où on vient et où on va retourner une fois que notre incarnation sera terminée. Donc c'est un peu différent, voilà.
Donc c'est pas forcément des âmes en particulier qu'on va rencontrer dans notre incarnation.
On peut en fait les rencontrer dans notre incarnation, c'est pas nécessairement le cas, mais bien sûr que oui, on peut les rencontrer. Ça peut être très bien une personne de notre famille, un ami, un partenaire, donc voilà, mais c'est pas nécessairement le cas, parce que on peut très bien avoir aussi une vie avec d'autres personnes, avoir des liens avec d'autres personnes. C'est des liens d'âme aussi, mais elles ne font pas forcément partie de notre famille d'âme.
Donc la famille d'âme, c'est pas forcément celle dans laquelle on va s'incarner.
Bah, j'ai envie de te dire oui et non, en fait. C'est un petit peu ce que je te disais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des membres de ta famille terrestre qui font partie aussi de ta famille d'âme. Mais tu peux aussi t'incarner dans une famille terrestre où, par exemple, ta mère, ton père ou tes frères ou tes sœurs ne font pas forcément partie de ta famille d'âme.
À quoi on les reconnaît alors ?
Je dirais que quand on est en contact avec une personne de sa famille d'âme, il y a déjà une connexion assez forte qui se fait. Donc souvent, on va ressentir, soit ça va être déjà une connexion par le regard, puisque le regard, c'est le miroir de l'âme. Donc, on peut reconnaître déjà simplement juste par le regard, il y a une connexion qui se fait. Ou ça peut être aussi tout simplement un ressenti, en fait, à l'intérieur, comme une vérité où on sent qu'il se passe quelque chose. Il y a vraiment une connexion forte qui se fait. En plus de cette connexion, je dirais également qu'il y a un lien énergétique. qui souvent est assez, qui est aussi fort et assez, assez perceptible par les deux personnes. Par exemple, je pense moi à ma mère, quand je lui fais un soin énergétique, je sens que son énergie vient me ressourcer, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres personnes quand je fais des soins. Il y a également le fait de pouvoir ressentir aussi les états de la personne à distance. Alors ça peut être aussi en face à face, on ressent les états, mais surtout aussi à distance. Par exemple, on se rend compte qu'elle peut très bien ressentir tout d'un coup, soudainement en fait, un état et qu'il n'y a pas vraiment d'explication dans sa réalité présente qui vient expliquer cet état. Et quand on en parle, et bien on se rend compte qu'au moment où elle a ressenti cet état, c'est que moi, j'étais en train de vivre quelque chose à ce moment-là et qu'elle l'a perçu.
Et ça, c'est pas, ça peut pas être juste dû à votre lien énergétique dans cette vie, enfin, le fait que vous soyez mère et fille dans cette vie.
Non, pas forcément. C'est pas juste le fait qu'on soit mère et fille, en fait. C'est le fait que oui, c'est ma mère, mais qu'il y a en plus, en fait, un lien d'âme et un lien énergétique qui est fort, qui du coup en fait nous permet d'avoir une connexion assez forte et donc de se sentir à distance, de se capter aussi en rêve. C'est ce que je voulais dire aussi souvent aussi, c'est que dans les rêves on peut en fait avoir des informations pour la personne, avoir des messages pour cette personne, de même que cette personne peut aussi recevoir des informations et des messages pour nous. Maintenant ma mère, elle a souvent des rêves prémonitoires pour moi, donc elle va capter quelque chose, elle va m'en parler et peut-être plusieurs jours après, parfois c'est plusieurs semaines même après, il va se passer quelque chose dans ma vie et c'était effectivement en lien avec ce dont elle m'avait parlé, ce dont elle avait capté. Voilà. Donc en fait c'est ça, c'est souvent en fait, ça va être des personnes qui vont avoir un rôle, je dirais, important dans notre vie. Et ça ne veut pas dire en fait que quand on est avec une personne de sa famille d'âme, que c'est une relation toute tranquille. Souvent, ça va être des relations qui vont nous accompagner, qui vont nous soutenir, pour mieux vivre cette incarnation aussi, pour mieux la supporter parfois, et en même temps, activer en nous des blessures pour nous permettre d'évoluer sur cette blessure, pour la guérir, pour la dépasser. Enfin voilà, comme je disais, c'est vraiment un effet miroir. Parce que ça va venir mettre en lumière des blessures, des parts cachées en nous, et c'est tout l'intérêt en fait de ces relations. Donc c'est ça le rôle finalement qu'on a, enfin, qu'elles ont dans nos vies. C'est toujours en fait donc cette idée que c'est une relation importante qui va à la fois nous soutenir et en même temps nous faire évoluer. Et l'évolution peut passer par des situations, par des moments parfois qu'on peut considérer comme difficiles ou douloureux.
D'accord. Et alors, quelle est la différence entre famille d'âme, âme sœur et relation karmique?
Alors donc, bah, famille d'âme, c'est ce que je viens d'expliquer, hein. Donc, ouais. C'est soit notre famille céleste, ou ça peut être aussi donc des personnes qui font partie de la même catégorie de famille d'âme. Et là, souvent, on va se retrouver avec eux dans le sens qu'on va se sentir comme si la personne, elle pouvait vraiment nous comprendre. Il y a aussi une direction au niveau de notre chemin de vie qui peut être similaire. Des capacités ou des dons aussi qui vont ressembler à nos propres capacités, des envies voilà, qui vont être pareilles. Donc on se sent vraiment comprise en fait par cette personne.
On parle le même langage.
Exactement, c'est ça. On parle le même langage, on se sent vraiment compris. Donc voilà pour la famille d'âme. C'est souvent aussi quand on est en présence donc, d'une personne de sa famille d'âme, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vibratoirement, on se sent vraiment bien avec cette personne. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de désharmonie vibratoire. Quand je parle de désharmonie vibratoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répulsion, que la personne vibratoirement, en fait, elle nous fait sentir mal. Donc ça aussi, c'est une indication. On se sent vraiment bien, on sent qu'il y a une harmonie, une fluidité en fait au niveau de la vibration. Et encore une fois, harmonie vibratoire ne veut pas dire que il va pas y avoir.
On s'entend bien forcément.
Voilà, exactement. Que tout va être fluide et qu'il n'y a pas de tension, de dispute ou que ça ne va pas venir nous titiller intérieurement. Mais en tout cas, il n'y a pas cette répulsion en fait par rapport à l'autre que des fois on peut ressentir avec certaines personnes. Voilà. Les âmes sœurs, c'est des, pour moi, c'est des reconnexions karmiques, dans le sens où on se réincarne souvent en fait avec ces âmes-là, parce qu'elles vont être un soutien vraiment pour nous. Elles vont nous accompagner. Alors, soit ça peut être nous accompagner dans notre tout au long de notre chemin de vie, mais ça peut être aussi des relations d'âmes sœurs qui sont temporaires, donc pour nous accompagner dans une certaine phase de notre vie où on a besoin de ce soutien pour surmonter une épreuve. Voilà, donc parfois on se rend compte qu'on fait des rencontres qui n'arrivent pas par hasard finalement, qui sont là au bon moment quand on en a besoin. Et une fois que l'expérience elle est terminée, eh bien la relation se termine. Et les relations d'âme sœur, c'est pas forcément que amoureux, hein. Ça s'applique dans les domaines donc, de l'amitié, dans la famille aussi, et au niveau au niveau du plan sentimental. On peut avoir plusieurs âmes sœurs, et les âmes sœurs peuvent être des âmes de notre famille d'âmes, donc de notre famille céleste aussi.
Au moment de la rencontre, est-ce qu'il y a des moyens de reconnaître une âme sœur ?
En fait, les âmes sœurs, souvent, ça va être une relation qui va être assez fluide, assez tranquille. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tension, mais y a beaucoup de points communs. Donc déjà, effectivement, il y a quand même une certaine connexion avec la personne, mais c'est surtout qu'on va avoir... Ouais, ça va être tranquille, ça va être fluide, on va aller vers la même direction, on va avoir des points communs. Il y a une certaine complémentarité, en fait, avec un âme sœur, mieux complète d'une certaine manière. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on peut reconnaître, finalement, un lien d'âme sœur. Et on en a plusieurs, donc on en rencontre vraiment
au moment où on en a besoin.
C'est ça. Comme je disais, ça peut être soit tout au long de sa vie, si c'est par exemple ta mère, ton père, un frère, une sœur. Ça peut être un ami aussi, une amie, un partenaire. Moi, je sais que par exemple, pendant mes années d'études, donc de droit, un copain. Et je sais aujourd'hui avec le recul que c'était un lien d'âme sœur parce que c'était une relation qui était effectivement assez tranquille, ce qui ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas des tensions, ce qui ne voulait pas dire qu'il n'est pas... il n'a pas activé en moi des blessures. On va dire que pour moi, c'était les premières couches. C'est comme s'il venait réveiller en fait, les premières couches de mes blessures. Et en même temps, il y avait beaucoup de points communs, il y avait une certaine fluidité dans notre relation. Et j'ai vraiment, avec le recul, ressenti que c'était important qu'il soit là pendant mes années de droit parce que c'était vraiment une phase de ma vie qui était très difficile et que peut-être sans lui, ça aurait été plus difficile ou que j'aurais peut-être pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc, avec le recul, je sais bien que ça a été un véritable soutien. Et au moment où j'arrêtais les études et où je suis passée en fait, dans ma vie active, la relation s'est naturellement arrêtée. C'est-à-dire que chacun, on prenait en fait, un chemin différent et du coup, la relation s'est arrêtée comme ça. Et c'était juste. Et pour moi, ça a été la rupture, ça a été vraiment cet événement en fait, donc qui a provoqué un éveil, qui m'a invité à aller me demander, mais en fait, qui je suis vraiment. Et c'est ça en fait, donc qui m'a ouvert la porte finalement à ce chemin spirituel. Sans cette rupture, peut-être ça n'aurait pas été le cas, je n'aurais pas été sur cette voie-là. Après, en général, les relations nous préparent aux prochaines relations. Donc, c'est pour ça que pour moi, j'ai vraiment cette sensation que les premières relations en fait, qu'on peut avoir, elles viennent toucher les premières couches. Et souvent, effectivement, on sent en fait, donc, que c'est dur. Hein, même moi, à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment très dur. Enfin, j'ai eu la sensation de vraiment toucher le fond du fond et que je ne pourrais pas me relever par rapport à tout ce qui m'arrivait à ce moment-là. Mais après, avec les autres relations, je me rends compte que finalement, cette relation, elle m'a préparée pour les autres et que toutes les autres relations m'ont encore préparée pour ma relation en fait, actuelle. Voilà. Et même quand on a la sensation que... on a touché le fond du fond et qu'on a été vraiment dans des choses profondes, et ben en fait plus tard on se rend compte que c'était pas si profond que ça. Sur le coup ça paraît en fait profond parce que forcément on est dans une couche, dans une couche émotionnelle et on a touché la blessure, donc forcément ça nous paraît tous profond. Mais en fait plus tu dissous, plus du coup tu vas vers le fond de la blessure, vers l'origine, et plus en fait effectivement c'est profond. Mais tu t'en rends pas compte au début. C'est grâce aux expériences que tu vis et les relations que tu as et comment ça vient te, te toucher et te faire évoluer que tu te rends compte en fait que ce que tu ressentais, c'est faut pas minimiser, c'était important à ce moment-là, mais c'était les premières couches et qu'ensuite tu vas plus loin. Mais tu t'en rends pas compte. Tu vois, quand tu es dans les premières couches, tu sais pas en fait qu'il y a encore tout un tas de choses en fait derrière cette couche-là. Tu vois? Donc c'est parce que tu continues à évoluer et que tes relations te préparent aux relations suivantes pour aller de plus en plus profond.
On a parlé des âmes sœurs et maintenant, est-ce qu'on peut parler du coup des relations karmiques ?
Pour moi, toute relation est une relation karmique parce que la plupart donc, des relations qu'on a, je parle des relations qui ont quand même une importance dans notre vie, qui vont venir toucher des choses dans notre vie, en tout cas sur notre destinée, il y a un contrat d'âme. Et donc un contrat d'âme, c'est en fait un contrat karmique où les deux âmes se mettent d'accord sur ce qu'elles vont... les rôles qu'elles vont prendre dans cette vie-là et qu'est-ce qu'elles vont venir se faire travailler mutuellement. Donc, toute relation, finalement, qu'on a, ce sont des relations karmiques.
Ouais, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un contrat d'âme ? Comment ça se passe ?
En fait, avant de s'incarner, donc l'âme, elle va définir sa feuille de route pour son incarnation. C'est-à-dire qu'elle va, pour moi en tout cas, elle va déterminer, elle va faire le choix des grandes lignes de son incarnation, des grands événements ou des rencontres qui vont être essentielles pour son évolution. Et donc pour ça, elle a besoin aussi de d'autres âmes. Si elle décide de certains événements ou elle décide de travailler par exemple la blessure de trahison, elle ne peut pas le faire toute seule, donc elle va avoir besoin de d'autres âmes qui vont pouvoir jouer finalement un certain rôle et lui faire travailler ça, en tout cas éveiller en elle cette blessure cette blessure en fonction des circonstances, des événements en fait qui vont être prévus. Donc le contrat d'âme finalement, ça lie tout simplement deux âmes qui vont accepter, ok, par exemple, toi tu vas jouer le rôle de la mère, moi je vais jouer le rôle de l'enfant. Et par exemple, l'âme de l'enfant dit, moi j'ai besoin de travailler la blessure d'abandon. Donc il va demander en fait à l'âme de la mère, de lui réveiller cette blessure d'abandon par différentes circonstances de vie. Voilà. Donc, comme je disais, ça peut être soit des grands événements, par exemple la mère qui s'en va au moment de la naissance ou après, en tout cas, qui part et puis qui donne plus jamais de nouvelles, c'est un abandon. Mais ça peut être aussi des circonstances de vie qui sont peut-être moins dramatiques, c'est ça, mais qui, en tout cas pour l'enfant, vont être quand même vécues comme une forme d'abandon. Parfois, sur le coup, on n'a pas forcément l'impression, même quand on travaille sur ça, on se dit, ok, donc moi j'ai une blessure d'abandon, mais pourtant, je vois pas trop dans ma vie, en tout cas dans mon enfance, qui a pu réveiller ça. C'est vrai qu'en tant qu'adulte, des fois, on n'a pas du tout la même perception en se disant, c'était une forme finalement d'abandon, mais pourtant, pour l'âme d'un enfant, pour l'enfant, c'est vécu comme un abandon.
Est-ce que les rôles s'inversent forcément d'une vie à l'autre ?
Souvent, oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'à tous les coups, par exemple, si on décide de jouer le rôle de la mère et le rôle de l'enfant, en fonction de ce qui a été fait dans cette incarnation, soit ils vont décider de rejouer les mêmes rôles, si par exemple il y avait quelque chose qui avait été décidé au niveau du contrat d'âme et qu'il y a une leçon ou quelque chose qui n'a pas vraiment été apprise, dans ces cas-là c'est possible en fait donc de rejouer les mêmes rôles, mais on peut aussi changer, on change aussi de rôle si c'est juste. Donc là tout dépend en fait donc des deux âmes, de ce qu'elles ont vécu et de ce qui était prévu dans le contrat d'âme en fait initialement.
Okay, donc toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie, finalement, elles ont un contrat d'âme avec nous.
Je dirais que c'est les personnes les plus importantes. Par exemple, une personne que tu vas croiser au supermarché, je sais pas moi, et puis qui va te piquer ta place dans la queue. Il n'y a pas forcément un contrat d'âme, ça va te mettre en colère peut-être, tu vas peut-être pas te sentir respectée, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un contrat d'âme avec cette personne-là. C'est plutôt là, je dirais, la source, l'univers qui va utiliser un peu comme des marionnettes certaines personnes pour venir activer en toi quelque chose. Et donc, ça, voilà, tu vas le sentir. Et c'est peut-être juste après d'aller regarder pourquoi tu t'es pas senti respectée, tu vois, à ce moment-là. Mais effectivement, oui, pour toutes les relations, les personnes importantes dans ta vie, que ça peut être de la mère, du père, ça peut être aussi des collègues, des amis, on a des contrats d'âme, effectivement, avec ces personnes-là. Mmh.
Ok. D'après ce que tu me dis, la plupart de nos relations, quand même, sont, en tout cas les relations importantes, sont prévues dans notre feuille de route, les événements importants aussi, par contrat, avant l'incarnation. Dans ce cadre-là, à quel moment s'exerce le libre arbitre ?
Par rapport à cette question du libre arbitre, ce que je ressens, c'est que le contrat d'âme prévoit, comme je l'ai dit, les grandes lignes de notre incarnation, les événements majeurs, les rencontres qui sont absolument essentielles sur notre chemin. Et finalement, il y a donc tout un tas de situations dans lesquelles notre personnalité physique va être amenée à prendre des décisions, à faire des choix entre, par exemple, plusieurs directions, plusieurs chemins. Et si la connexion avec l'âme n'est pas complètement stable ou pas encore vraiment établie, la décision, elle peut être prise à partir de l'espace, plutôt de l'ego, du mental, et non à partir de l'espace de l'âme. Donc ce que je ressens, c'est que finalement, il y aurait plusieurs chemins qui pourraient nous mener vers une direction finale ou un but final. En tout cas, pour moi, la direction finale ou le but final, c'est la leçon que l'âme est venue apprendre. Et donc le chemin que la personnalité va choisir va finalement nous faire vivre certaines expériences. Et peut-être qu'en choisissant un autre chemin, eh bien, la personnalité en fait, va vivre d'autres expériences qui peuvent être un petit peu similaires, mais il y aura quand même des différences. Et il y a peut-être même des chemins où finalement, il va y avoir des événements qui n'étaient pas forcément absolument nécessaires, en tout cas du point de vue du contrat d'âme. Mais parce que la personnalité a décidé de prendre ce chemin, a fait ce choix, eh bien, elle va rencontrer des événements qui vont lui apporter peut-être plus de difficultés ou peut-être de la douleur, alors que si elle aurait pris un autre chemin qui aurait été plus en alignement avec son âme, ça lui aurait peut-être évité de vivre en fait certaines expériences. Donc en fin de compte, pour moi, de toute façon, les synchronicités de la vie, elles chercheront toujours à nous guider vers la leçon que notre âme a souhaité intégrer pour cette incarnation. Et quand je parle de synchronicité de la vie, c'est finalement son âme supérieure, donc le moi supérieur, et en collaboration avec les guides, qui vont chercher en fait à chaque fois à nous réorienter en fait donc sur le finalement le bon chemin pour aller vers cette leçon à intégrer. Et pour moi, c'est en cela que le libre-arbitre, il s'exerce. C'est-à-dire que c'est plutôt le libre-arbitre de la personnalité qui est toujours libre de suivre les impulsions de l'âme. Donc la personnalité, elle reste libre d'être en connexion avec son âme supérieure et de ressentir les impulsions de son âme, l'intuition, pour la guider vers tel chemin, pour prendre telle décision. Elle peut très bien décider, la personnalité, de ne pas être en connexion avec son âme, de ne pas vouloir suivre ses impulsions, de ne pas ressentir intérieurement les messages aussi que son corps lui envoie, et bien de prendre ses décisions à partir de l'espace de l'ego et du mental. Donc en fait, plus la connexion avec la personnalité et avec l'âme est présente, et plus nous allons suivre l'intuition, les impulsions de l'âme, car à ce moment-là, on va se sentir bien, on va se sentir aligné, on va ressentir à l'intérieur que c'est calme, que c'est en paix quand on prend cette décision, et donc que c'est juste. Et pour moi, c'est vraiment de très bons indicateurs, c'est de vraiment être à l'écoute intérieurement de ses ressentis, de ce qui se passe. À partir du moment où c'est paisible, c'est calme, c'est doux, c'est des indicateurs qu'on est en connexion, qu'on suit les impulsions de l'âme. Si on prend des décisions, qu'on fait des choix qui vont être pris plutôt à partir de l'espace du mental ou de l'ego, souvent ça va être, on va pas forcément se sentir hyper rassuré par rapport à ces décisions, on va avoir peut-être beaucoup de doutes, ça peut être aussi des décisions, des choix qui vont être pris dans l'urgence, et bah, souvent on va pas les avoir en fait, hein, ces indicateurs. C'est comme ça qu'on peut de plus en plus se rendre compte si la décision, le choix qu'on fait, est-ce que c'est plutôt du point de pris à partir de l'espace de l'ego ou plutôt à partir de l'espace de l'âme. Et voilà, et sur ça, je pense que c'est quand même important de se détacher, par contre, le plus possible de cette fausse croyance selon laquelle on peut faire les mauvais choix ou on peut passer à côté de notre vie. Parce que je dirais que même dans l'hypothèse où notre âme aurait souhaité intégrer une leçon en particulier, réaliser quelque chose et que cela n'a pas été fait pour X raisons, en fait, parce qu'elle a fait des choix, elle a pris des décisions, elle a été vers des chemins qu'ils n'étaient pas forcément en alignement avec son âme, eh bien ça fait aussi partie de l'expérience terrestre pour l'âme. Et c'est une leçon à intégrer pour elle. Voilà, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que pour l'âme, il n'y a pas d'échec. Elle pourra toujours renouveler son expérience autant que nécessaire pour pouvoir intégrer cette leçon. Il n'y a que pour l'humain qui est dans une dimension mentale, temporelle, que cette question de réaliser quelque chose dans un temps limité est importante et même vitale et qu'il y a même une urgence. C'est que pour l'humain, ça. Pour l'âme, ça n'existe pas.
Il y a juste des expériences et des expériences qui te permettent de grandir, d'évoluer et d'aller vers qui tu es vraiment.
Que penser du fait de recevoir des signes qui pointent vers une personne, par exemple ?
Quand il y a des signes comme ça ou des synchronicités où tu sens en fait que tu es guidé ou en tout cas poussé vers une personne, c'est qu'il y a une expérience à vivre. L'expérience, ça peut très bien être longue, ça peut très bien après être une relation voilà, longue, ou ça peut très bien aussi être une expérience courte, temporaire, mais qui est prévue au niveau donc, du contrat d'âme. Et donc, c'est pour ça en fait, que finalement, la vie en fait, te montre, t'aide et te guide dans cette direction. Parce que c'est une rencontre essentielle et que parfois, on peut avoir comme un voile, parce qu'on peut avoir des peurs aussi, et forcément inconsciemment, des fois on sait que si on va vers cette personne-là et qu'on vit cette expérience, ça peut venir réveiller des choses en nous, même si l'âme elle a décidé de vivre ça, bah, au niveau de la personnalité, en tout cas de l'âme incarnée, elle sait en fait que ça va peut-être être douloureux, que ça va venir titiller des choses. Donc des fois on peut avoir comme un voile et on n'a pas envie d'aller vers cette personne. Donc la vie nous guide aussi, elle nous pousse. Donc à chaque fois effectivement qu'il y a ces synchronicités, à partir du moment où c'est des synchronicités qui sont je dirais qui sont naturelles et qui ne sont pas voulues, parce que ça j'en parlerai, parce que parfois on peut aussi attirer des signes à nous parce qu'on vibre ça, donc on dit que c'est des signes et en fait c'est juste parce que nous on a cette partie là en fait qui vibre. Mais voilà, à partir du moment où c'est des synchronicités qui sont naturelles et que nous on est neutre par rapport à ça, bah oui, il faut effectivement aller voir un petit peu quelle est cette expérience qu'on a à vivre avec cette personne. C'est toujours juste au niveau de notre évolution. De toute façon, ça peut être des choses que la personne va venir réveiller chez nous. Ça peut être aussi une personne qu'on a, en tout cas une âme en fait, qu'on a, avec qui on a déjà vécu dans des vies passées. Et il y a quelque chose peut-être à terminer. Moi, ça m'est déjà arrivé de ressentir un lien fort avec une personne et de sentir qu'il y avait tout un tas de synchronicités. Et en même temps, ça, c'est pas pour ça qu'on a eu une relation. En revanche, ce que j'ai pu percevoir, ce qu'on m'a montré, c'est qu'on avait eu une vie passée ensemble et ça n'avait pas été terminé. Et donc le fait de se retrouver, eh bien ça permettait en fait de clôturer ce schéma en fait qui n'avait pas été terminé. Donc ce qui fait que cette personne-là, elle, dans cette incarnation, elle vivait d'une certaine manière avec une mémoire de cette vie passée qui finalement l'influençait et le contrôlait. Et donc le fait de pouvoir, en tout cas pour moi, avoir conscience de ça et de transmuter en fait cette mémoire de vie passée, ben, ça permet en fait à chacun de pouvoir se libérer et de continuer son chemin dans cette incarnation. Mais on a libéré cette mémoire de vie passée. Voilà. Donc voilà. Donc par exemple, là, c'est une expérience qui est relativement courte, c'est pas forcément une relation, mais pourtant, tout me poussait à aller vers ça pour que je puisse comprendre ça.
D'accord. Et du coup, tu parlais des signes qui sont pas des vrais signes.
Oui, parce que parfois, on peut vibrer quelque chose en nous. Par exemple, si on veut à tout prix être dans une relation amoureuse et qu'on cherche la personne avec qui on va pouvoir vivre une relation, notre relation idéale, notre moitié. Du coup, si c'est quelque chose qui est fort en nous, on va vibrer ça. Et donc énergétiquement, on va attirer à nous des signes, des synchronicités et on va les interpréter par rapport à ce qu'on vibre. Voilà, tu comprends ce que je veux dire?
C'est quoi, c'est des pièges?
Non, c'est pas des pièges, c'est pas des pièges. C'est encore une fois, pour moi, c'est très juste. Moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire on vibre quelque chose qui est très fort en nous, et donc on va rencontrer une personne, et c'est un peu comme si c'est bon, on voyait tous les signes qui nous mènent vers cette personne, et on pense en fait que c'est cette personne-là, c'est la et personne en fait, qui est bonne pour nous, et c'est pas forcément en fait le cas, mais parce qu'on vibre ça, mais du coup c'est hyper intéressant parce que non seulement en fait déjà ça crée beaucoup d'attentes déjà sur les épaules de l'autre quand on vibre ça, mais surtout c'est que ça nous permet de voir où on en est nous à l'intérieur et de prendre conscience que on est avant tout une énergie, que nos pensées, nos croyances et nos sensations en fait donc émanent une certaine énergie et que on va attirer à soi ce qu'on vibre. Cette recherche en fait d'être de trouver l'amour et d'être dans une relation avec une personne, notre moitié qui nous complète, bah le fait de vibrer ça, c'est notre réalité intérieure. Donc finalement dans notre réalité extérieure, eh bien on va rechercher en fait tous les signes, toutes les choses qui vont pouvoir nous guider en fait vers ça. Et donc parfois voilà, ça peut être on peut mal les interpréter.
Ok. Est-ce qu'il existe d'autres types de relations? On a parlé des familles d'âmes, des âmes sœurs, des relations karmiques. Est-ce qu'il y a un autre type de relation qui existe?
On parle aussi beaucoup des flammes jumelles ou des âmes jumelles ou encore des relations sacrées. Pour moi, déjà, le fait qu'on donne des noms comme ça donc aux relations donc d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, relations sacrées, en fait, on met des étiquettes sur les relations. C'est quelque chose qui a été plutôt créé en fait donc par l'être humain. Au niveau subtil, je pense pas qu'ils aient les mêmes termes âme sœur, flamme jumelle ou quoi. Voilà. Je pense que c'est vraiment en fait des notions qui ont été créés en fait donc par les êtres humains, parce que sûrement que on s'est rendu compte que lorsqu'on vivait différents types de relations, que ça peut-être ça nous faisait travailler différemment, que l'intensité était différente. Donc en fait on se rend compte que oui, quand on a plusieurs relations, que nos relations elles sont différentes, et ça c'est que parce que on a expérimenté plusieurs types de relations, et en fonction de là où on en est, comme je disais, ben nos relations en fait elles nous préparent à chaque fois en fait donc pour la suivante. Et donc pour moi en tout cas, on peut aller de plus en plus profond, mais on le fait parce que l'âme elle se sent prête. C'est aussi l'âme qui décide en fait hein, le type de relation qu'elle a envie de vivre en fonction de là où elle en est, de ce qu'elle doit aller travailler, de ce qu'elle doit aller chercher en fait contacter en elle. Toutes les relations, pour moi, elles viennent nous faire évoluer, elles viennent nous faire travailler, toutes, sans exception. Après, ce qui va être différent déjà, c'est la conscience des partenaires, c'est-à-dire qu'il y a des relations, et la plupart des personnes, en fait, sont plutôt dans ce type de relation, où elles vivent leur relation, mais il n'y a pas de conscience sur le potentiel d'évolution que le partenaire peut nous apporter, enfin, en tout cas, mutuellement, où on se fait évoluer mutuellement. Donc c'est ça qui crée souvent aussi beaucoup de souffrance, parce qu'on vit la relation, ça peut nous activer des choses en nous, et on comprend pas, on met la faute sur l'autre sans revenir à soi et se demander ok, alors moi là je suis activée dans telle situation parce que la personne elle a dit ça, pourquoi je suis activée. Non, on va considérer en fait que c'est l'autre en fait qui a agi de telle manière et qui aurait pas dû, qui a fait telle chose et donc qui nous a blessés.
Ouais, pour avoir ce type de réflexion, il faut déjà être soi-même dans une démarche de développement spirituel.
Alors, pas forcément en spirituel, mais en tout cas, une conscience que... qu'à partir du moment en fait où on est activé, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est que la personne elle vient juste réveiller en nous quelque chose. Donc oui, il faut avoir conscience
du potentiel d'évolution
aussi, peut-être des contrats d'âme. C'est vrai que quand on intègre cette notion, et c'est pas simplement intellectuel, c'est à partir du moment où vraiment on incarne en fait donc cette notion de contrat d'âme, c'est plus facile quand même dans nos relations. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas de souffrance ou que c'est pas douloureux, mais en tout cas on sait que du point de vue de l'âme en fait, bah, c'est quelque chose qui est voulu, et on en revient toujours à nous. Ok, pourquoi mon âme a décidé de vivre alors cette expérience, cette relation qui est venue activer ça en moi? Donc voilà, souvent en fait les relations où il n'y a pas de conscience, c'est celles qui nous font quand même souffrir, parce que ben, notamment quand il y a une rupture amoureuse, ben, on, voilà, on ne comprend pas vraiment en fait pourquoi il y a eu cette rupture, qu'est-ce que ça vient réveiller en nous, qu'est-ce que ça vient nous faire travailler. Donc on est plutôt dans on met la responsabilité en fait sur l'autre et sur la relation plutôt que d'aller voir à l'intérieur de nous. Après, il y a les autres types de relations déjà où on est plus conscient du potentiel d'évolution. Donc on sait que la relation amoureuse, ça va permettre pour chacun de mettre en miroir des parties cachées en fait, donc qui nous appartiennent, qui sont en nous et que notre âme a décidé donc de venir travailler. Donc déjà là, quand il y a un petit peu plus de conscience sur ça, on passe déjà à un autre type de relation. Parfois, c'est difficile parce qu'il n'y a qu'un des partenaires qui est conscient et l'autre partenaire n'est pas forcément conscient. Et que l'autre, du coup, ne fait pas ce travail de son côté. Mais en tout cas, quand les deux partenaires sont conscients du potentiel d'évolution que permet la relation amoureuse, on est déjà voilà, un autre niveau de relation où on sait que ce qui nous arrive, que les situations, les défis qui sont présentés dans notre relation amoureuse, elles sont là pour une bonne raison. Ça n'empêche pas, dans un premier temps, de ressentir voilà, une forme de colère ou en tout cas d'énervement ou de mettre un peu la responsabilité sur l'autre. Mais assez rapidement, on arrive à faire le point sur « Ok, dans cette situation, qu'est-ce que ça vient toucher en moi ?» Par rapport à toutes les expériences, toutes les relations en fait, qu'on va avoir, on peut se rendre compte, ça, c'est ce que j'avais déjà dit tout à l'heure, qu'il y a telle relation qui avait commencé en fait, à ouvrir, à travailler sur certaines couches, par exemple, tu vois, des couches de protection, des couches émotionnelles qui sont là, et qu'en fait, au fur et à mesure de nos relations, il y a des relations qui sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus profondes. En tout cas, ce que j'appelle les relations sacrées, c'est vraiment quand, ou flamme jumelle aussi, même si j'aime pas trop utiliser cette notion de flamme jumelle dans le sens où c'est une notion qui est utilisée aujourd'hui avec pas vraiment beaucoup de conscience sur ce que ça peut impliquer, vraiment. Peut-être, je vais peut-être juste expliquer pour ceux qui connaissent pas les flammes jumelles, c'est en fait une âme qui aurait été divisée donc, en deux âmes. Avec donc une âme qui est plus représente la polarité yin et une âme qui représente la polarité yang, donc le féminin et le masculin. Et donc ces deux âmes, en fait, donc, elles vont s'incarner sur Terre et elles vont finalement vivre leur propre expérience dans un premier temps de manière séparée, hein, individuelle. Et il est possible en fait donc qu'elles se rencontrent en fonction des différentes incarnations, mais la réunion, elle pourra se faire qu'à partir du moment où chacune des âmes aura déjà suffisamment avancé et cheminé intérieurement sur les blessures, notamment les blessures de rejet, d'abandon, pour pouvoir en fait donc être ensemble. Parce qu'en fait, au moment de la réunion, c'est tellement intense au niveau de l'effet miroir et de ce que ça va provoquer et toucher, en fait, éveiller chez l'autre, que souvent, en fait, ça peut pas durer. C'est trop intense. Il y a vraiment ce besoin, en fait, donc de se séparer, de couper, comme si finalement l'autre était perçu comme un ennemi. Parce qu'en fait, ça vient réveiller des choses tellement profondes en nous, avec beaucoup de souffrance, qu'on préfère fuir la relation et ne plus être avec cette personne. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'amour. Donc voilà, c'est les relations, enfin les relations de flammes jumelles. Moi, je parle plutôt de relations sacrées. Et quand je parle de relations sacrées, c'est donc ce que j'expliquais tout à l'heure. Les deux sont vraiment conscients en fait donc du potentiel d'évolution. Mais c'est surtout en fait pour moi ce qui va caractériser ce type de relation, une forme de cadre sécurisant. Parce qu'on a besoin en fait de cette bulle en fait où on se sent en sécurité avec l'autre pour être complètement authentique et sincère sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir en fait être en parfaite confiance avec l'autre pour laisser tout ce qui se passe en nous, tout ce qui va émerger à l'intérieur de nous et en fait notre partie vulnérable pour pouvoir la laisser s'exprimer en fait à l'autre. Parce que souvent dans ce type de relation, comme je disais, l'autre peut être perçu comme un ennemi vu que ça vient toucher des choses très profondes et on ne se sent pas forcément en sécurité pour pouvoir laisser cette partie vulnérable s'exprimer et être complètement authentique et sincère avec l'autre. Donc tout le travail en fait donc entre les deux, ça va être d'équilibrer la relation en travaillant chacun en fait donc sur ben, les blessures, les mémoires, tout ce que ça fait émerger, pour à un moment donné trouver une forme de stabilité et surtout en fait créer en fait, ce cadre où chacun se sent en sécurité pour pouvoir exprimer pleinement en fait, sa partie vulnérable à l'autre. Il y a une forme de compréhension sur son propre fonctionnement intérieur, sur ce qui se passe, et également une compréhension sur le fonctionnement intérieur de l'autre. Par exemple, il y a certaines situations qui, comme ça, paraissent assez simples, assez anodines, et pourtant, ça va provoquer en nous des réactions et des comportements, voire même parfois même des pensées qui sont complètement disproportionnées. Et là, c'est parce qu'on est vraiment touché au plus profond de la blessure. Et souvent, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'amour. Donc, c'est pour ça que la personne peut nous toucher, nous toucher autant. Et donc là, c'est important quand ça arrive de pouvoir l'exprimer à l'autre, que l'autre soit conscient de ça, de telle sorte que l'autre sache que quand ça nous arrive, ce n'est pas contre lui, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas par rapport non plus à la situation, mais que c'est juste que ça fait remonter en fait en nous des choses très profondes. Dans ce type de relation, il y a beaucoup de mémoires de vie passée et des mémoires du collectif aussi qui ne nous appartiennent pas forcément. Un peu comme si on avait accepté en fait, donc comme un manteau karmique de les porter pour pouvoir aider aussi le collectif à avancer sur ça. Et donc, c'est pour ça que ça prend des proportions qui sont souvent complètement disproportionnées par rapport à la situation. Et donc, quand les deux sont conscients et comprennent le fonctionnement de l'autre, ce qui se passe en fait en l'autre, ça permet d'être dans cette, comme je disais, dans cette relation en fait, donc de confiance. Et c'est vraiment important dans ce type de relation pour pouvoir évoluer pleinement.
Toutes les relations qui ont ce désir d'évoluer, de grandir intérieurement, spirituellement, avec l'aide de l'autre, peuvent être des relations sacrées. Le risque, c'est de catégoriser les relations par des noms différents et finalement de s'enfermer dans cette relation. De l'attendre ou même de la chercher en invalidant les autres types de relations qui sont tout aussi importantes.
Comment on reconnaît ce genre de personne ? Qu'est-ce qui se passe au niveau physique, énergétique, quand on est face à face ?
Déjà, en fait, on les reconnaît par rapport à nos expériences passées, parce que c'est quelque chose de très différent, qui souvent, en fait, nous surprend. Donc, c'est parce qu'on en fait l'expérience qu'on le sait. Voilà. On sait qu'il se passe quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment une vérité intérieure. On peut très bien aller voir des personnes qui vont dire oui, c'est tel type de relation, etc. Mais ça vaut pas du tout en fait sa propre vérité intérieure. Donc il y a que nous qui pouvons savoir. Ensuite, effectivement, oui, il y a souvent un lien énergétique qui vient du lien d'âme en fait, hein, qui est très fort, qui est perceptible par les deux. C'est un peu comme si le champ énergétique de chacune des personnes pouvait, fusionner et créer un nouveau champ énergétique avec une nouvelle énergie. Et donc souvent, en fait, quand on ressent ça, déjà on est très surpris parce que c'est très fort, c'est très puissant. Mais c'est chacun des deux, en fait, peut venir se détendre et se ressourcer dans ce champ d'énergie, en fait, donc qui est créé par la présence, en fait, des deux personnes. Ça nous permet souvent aussi d'aller vers des états modifiés de conscience. À partir du moment en fait, où on arrive à complètement lâcher prise et à se ressourcer dans cette bulle d'énergie, dans cette nouvelle bulle d'énergie, on peut avoir des états modifiés de conscience, ou en tout cas une expansion de conscience, je dirais. Il y a souvent aussi des rêves, hein, des visions. Déjà, quand on est... quand les personnes se réunissent, mais pas que quand elles sont réunies, c'est-à-dire que même avant la rencontre, on peut avoir cette sensation qu'on va rencontrer quelqu'un, une personne, mais on ne sait pas pourquoi. Mais c'est présent, c'est comme une voix intérieure, une sensation, et on peut aussi voir la personne en fait, avant même qu'il y ait la rencontre, en rêve. C'est-à-dire sur le plan astral. Parce que quand les choses se réalisent dans la matière, concrètement, elles se sont déjà réalisées en fait, sur des plans plus élevés. Donc en fait, il y a la possibilité d'avoir déjà accès à cette information, puisqu'elle s'est déjà réalisée sur des plans plus élevés. On ne sait pas quand ça va arriver, mais on a l'information. pendant la relation aussi, on peut avoir nos capacités extrasensorielles qui s'éveillent ou alors qui se développent encore plus. Ouais. Oui. Ouais. Ce type de relation, donc ça nous aide dans notre évolution, vient aussi les capacités extrasensorielles qu'on a tous, ces perceptions. C'est juste en fait qu'elles ne sont pas éveillées et c'est ce type de relation qui peut venir les éveiller. Donc elle peut venir soit déjà les éveiller, on peut aussi par exemple les avoir déjà un petit peu avant, mais le fait d'être en contact après avec cette personne et d'être finalement dans cette, comme je disais, dans cette bulle énergétique, eh bien ça vient les intensifier ou les développer en fait encore plus, parce que ça nous aide vraiment dans notre évolution spirituelle.
À partir du moment où elle se sent prête, c'est-à-dire lorsqu'elle a suffisamment avancé dans son processus d'évolution, qu'elle a déjà vécu un certain nombre de choses, notamment les plaisirs de la vie terrestre, les sens, le pouvoir, le sexe, et qu'elle se sent enfin prête à vivre cette expérience à deux, elle a décidé en fait de vivre ça pour passer à la prochaine phase de son évolution. Et c'est à ce moment-là en fait que finalement la relation sacrée ou en tout cas une relation d'âme très forte intervient pour aller plus profond dans ce chemin de guérison qui va permettre finalement à l'âme de se rappeler qui elle est et surtout de se connecter pour nous, pour la personnalité, de se connecter à son véritable soi. Donc c'est une relation qui permet d'entrer en contact, comme je disais, avec ses propres parts d'ombre, avec des espaces souvent très douloureux qui vont faire remonter de la souffrance. Donc il faut bien comprendre pour les femmes, mais aussi pour les âmes, hein, pour les hommes qui aspirent à trouver la personne qui finalement pourra répondre à notre idéal de relation, qui répondra peut-être à tous nos besoins, que le fait de vivre en fait ce type de relation n'a pas pour objectif de répondre à ça. L'objectif, ce n'est pas de trouver sa moitié et d'être enfin complet à deux. Au contraire, l'autre âme, c'est vraiment notre opposé en tout point, surtout au niveau de la personnalité. Et c'est en cela que cette âme-là va nous aider à travailler très profondément. C'est l'autre polarité qui finalement nous manque et qu'on va pouvoir, grâce à cet effet miroir, en fait, qu'on va pouvoir venir contacter en nous. Et ça demande vraiment de descendre très profondément à la cave, de laisser remonter toutes les mémoires douloureuses pour contacter finalement les forces en fait qui sont cachées derrière, équilibrer nos deux polarités. Et donc ce travail, elle ne se fait pas qu'avec cette autre âme, puisqu'elle commence déjà bien avant la rencontre avec donc nos relations, nos expériences. Et c'est une fois qu'on va avoir exploré déjà de nombreux aspects de nous et qu'on aura déjà commencé ce processus d'équilibrage entre notre partie yin et notre partie yang, qu'on va pouvoir aller plus loin et qu'on va pouvoir vivre finalement cette relation qui est à la fois très forte au niveau de l'amour et puissante au niveau des parties de souffrance que ça vient éveiller. Le type de relation de flamme jumelle, comme on l'appelle, donc c'est quelque chose qui est très à la mode, mais qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans cette attente de rencontrer sa flamme jumelle ou sa moitié, ou en tout cas dans cette approche qu'il n'y a qu'une personne qui est supposée finalement nous correspondre en tout point et nous rendre heureux. Et ça pour plusieurs raisons, parce que comme je l'ai déjà précisé, ça va venir invalider toutes les autres types de relations qui sont tout aussi importantes. Et qu'il peut y avoir énormément de frustration, de tristesse et d'attente qu'on va mettre aussi sur les épaules de l'autre, surtout si finalement l'autre ne ressent pas la même chose ou n'a pas du tout conscience du lien, ou qu'il est même dans un refus ou dans un déni par peur en fait de tous les ressentis et les sensations que ça peut faire émerger en lui. Donc à partir du moment où on se rend heureux nous-mêmes, qu'on est notre meilleur ami et qu'on se sent complet, on va pas avoir autant d'attentes sur l'autre. Et finalement, ça nous prépare à expérimenter et à comprendre ce que c'est le véritable amour inconditionnel, de laisser l'autre libre de ses choix. Et par exemple, même si nous, on ressent un lien alors que l'autre ne ressent pas ce lien où on a peur et préfère suivre, eh bien, de laisser l'autre faire son cheminement, de le laisser partir et de pouvoir continuer, nous, à vivre tout en restant, tout en étant heureux que l'autre soit présent dans notre vie.
Mais du coup, alors, tu me parlais des rêves.
Oui.
Comment on peut distinguer un rêve d'une rencontre astrale ?
Alors déjà, juste pour parler un petit peu donc, du plan astral, si on ne connaît pas forcément. Donc on a la Terre, donc, qui est donc, le monde manifesté. Et ensuite, on a des plans qui sont plus subtils. Donc le plan astral, c'est un plan donc, qui est plus élevé. Et il y a tout un monde, en fait, donc, sur ce plan astral, hein, qui a finalement ses propres formes de vie, ses propres créatures. On peut très bien parfois voir certaines créatures qui peuvent ressembler un petit peu à ce qu'on peut connaître sur Terre, mais on sent bien que non, ça n'a rien à voir avec un chien ou avec une souris, par exemple. Donc, c'est différent. Donc, voilà, il y a vraiment une vraie réalité sur ce plan astral. Et on est tous amenés à aller sur le plan astral, notamment quand on dort. C'est-à-dire qu'au moment du sommeil, donc, il y a notre corps physique donc, qui se repose. Mais notre conscience, elle s'élève et grâce à notre corps astral, puisque nous aussi, donc on a notre corps physique avec ses différents corps, dont le corps astral, le corps émotionnel, et c'est grâce à ce corps-là que notre conscience va pouvoir s'élever, monter et aller sur le plan astral. Et donc là, elle va pouvoir vivre en fait tout un tas d'expériences. Donc nous, quand on dort finalement, notre âme, notre conscience continue enfin à vivre ses propres expériences dans d'autres plans.
Tous les rêves sont des voyages.
Alors, pour moi, en fait, je fais quand même une distinction entre donc rêve et finalement les rencontres astrales ou la vie astrale qu'on peut avoir. Pour moi, un rêve, c'est une mise en situation de notre propre intérieur, de notre subconscient. Par exemple, si on a certaines peurs, si on a des croyances ou des pensées limitantes, eh bien, on peut très bien rêver et ça va mettre en lumière ce qui est inconscient ou est caché dans notre subconscient. Par exemple, quelqu'un qui a la blessure de trahison, donc qui la porte en elle, et bien elle va avoir peur d'être trahie, et donc elle peut très bien rêver que son partenaire donc, l'a trahie avec une autre femme, ou par exemple ça peut être une amie en fait, donc qui lui fait un coup dans le dos. Enfin voilà, donc en fait ça va être des mises en situation qui vont venir mettre en lumière sa propre réalité intérieure. Ça nous fait travailler parce que c'est les rêves, c'est ce qui permet donc de nous montrer certaines choses dont on n'a pas forcément conscience qui sont cachées dans notre subconscient et donc ça vient mettre de la lumière dessus. Donc c'est hyper intéressant. C'est tout aussi important que des rencontres ou notre vie en fait au niveau astral. Après, il y a les rencontres pour moi effectivement astrales ou les situations en fait en astral où là, on va pouvoir rencontrer des êtres qui sont incarnés, qu'on connaît ou qu'on connaît pas forcément dans cette vie-là, peut-être qu'on les connaît de vie passée. Et on va aussi rencontrer des êtres non incarnés, donc qui sont dans leur corps astral mais qui n'ont pas de corps physique. Ça va ? T'es clair ?
Alors, pour moi, oui. Peut-être que tu peux repréciser ce que c'est le corps astral.
Ok. Alors, donc, on a notre corps physique. Et après, on a donc plusieurs corps donc, qui sont subtils, invisibles. Donc, le corps éthérique donc, ou énergétique, le corps astral, le corps qui est le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Voilà, on en a d'autres, mais en tout cas, voilà, ça, c'est les principaux. Et donc, le corps astral, qui est notre corps émotionnel, c'est ce qui nous permet d'aller sur le plan astral. Voilà. Parce qu'en fait, la Terre, c'est la même chose que pour notre corps physique. La Terre aussi, elle a différents plans. Donc, moi, je parle plus de couches, voilà, de plans. Donc, comme nous, notre corps physique avec les corps plus subtils. Dans ce plan, dans ce monde astral, eh ben, on va rencontrer des êtres qui sont incarnés et qu'on connaît peut-être, notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, des amis. Ça peut être des êtres incarnés qu'on ne connaît pas forcément dans cette vie-là et pourtant on les voit en astral. Et ça, c'est parce que peut-être on a eu des incarnations avec eux. Et ça peut être aussi, donc, comme je disais, des êtres qui ne sont pas incarnés, donc qui n'ont pas de corps physique, mais qui ont un corps astral et qui sont donc sur le plan astral. Okay. Voilà. Et on peut rencontrer aussi bien donc, des êtres qui sont dans la bienveillance, qui sont lumineux, comme des êtres plus sombres. Finalement, cette vie en fait, dans le monde astral, c'est aussi une manière d'évoluer, de cheminer. On peut très bien vivre des situations dans le monde astral comme on pourrait les vivre dans la matière. Par exemple, il y a des choses qu'on ne va pas forcément vivre dans la matière. Par exemple, pour évoluer sur cette blessure en fait, de trahison, on ne va peut-être pas forcément le vivre dans la matière, mais on peut très bien le vivre donc, sur le plan astral avec une âme qu'on connaît, ou même une âme qu'on ne connaît pas forcément, et qui vont mettre en situation cette notre blessure. Et on va ressentir comme si on le vivait vraiment, et on va vraiment ressentir toutes les sensations, toutes les émotions, en tout cas être vraiment dans cet état, voilà, pour en faire l'expérience. Et ça nous permet vraiment aussi d'évoluer, de cheminer. On peut aussi avoir des initiations sur le plan astral. Donc c'est comme pour moi un accélérateur, en fait, je dirais. Voilà. C'est des choses, en fait, qu'on n'a pas forcément besoin de vivre, en fait, sur Terre, mais qui vont se passer sur le plan astral et qui vont permettre d'accélérer notre évolution sur ça.
Beaucoup de notre travail sur soi, de notre cheminement intérieur, spirituel, se fait pendant la nuit, et on est tous concernés, même ceux qui disent qu'ils ne rêvent, ne se rappellent jamais de leurs rêves, et peut-être qu'ils ne rêvent jamais. Pour certaines personnes, elles sont même très actives sur le plan astral, et elles peuvent travailler plus la nuit que le jour. Les rencontres avec d'autres âmes sur le plan astral sont là pour nous aider dans notre évolution et dans notre cheminement, pour finalement savoir s'il s'agit d'un rêve ou si c'est plus une expérience qu'on a vécue sur le plan astral ou d'une rencontre sur le plan astral. C'est vraiment une question de ressenti et aussi de discernement. Ça demande vraiment de prendre le temps d'observer notre activité la nuit pour progressivement pouvoir faire la différence au niveau de nos ressentis et de nos sensations, ce qui est créé par notre propre subconscient et finalement l'interaction avec d'autres âmes dans leur corps astral et notre propres expériences sur ce plan astral. Donc c'est une question vraiment de discernement et je pense que ça vient avec le temps, à partir du moment où on commence un peu à prêter attention à notre activité pendant la nuit, et à ce moment-là ça va devenir de plus en plus clair si c'est quelque chose qui est créé en fait par notre réalité intérieure. Par exemple, parfois on peut très bien avoir regardé un film ou avoir entendu quelque chose et on va rêver de ça pendant la nuit.
Okay. Et est-ce qu'une rencontre astrale est forcément vécue par les deux, enfin, est-ce que les deux personnes vont s'en souvenir le lendemain matin, par exemple?
Alors je dirais oui et non. Bah, c'est-à-dire en fait que déjà quand on fait des rencontres astrales, les deux personnes elles sont là en fait au même endroit, au même moment, donc elles vivent effectivement donc la même chose. C'est juste que au moment où du coup on se réveille, il y en a certains en fait donc qui vont ramener ce qu'ils ont vécu donc dans la matière, donc ils vont se souvenir de ce qu'ils ont vécu. Et peut-être parce que c'est important pour eux de se souvenir de ça, pour voilà, leur cheminement, leur évolution, leur compréhension. Et pour d'autres âmes, c'est peut-être pas si important que ça pour leur évolution. Donc, ils vont peut-être pas forcément s'en souvenir. Et puis, ils vont peut-être, eux, se souvenir d'autre chose, parce qu'on vit pas seulement une expérience pendant la nuit, on vit plein de choses sur plein d'autres plans. Donc, peut-être que l'autre personne, elle, va se souvenir d'une autre chose. Moi, je me souviens, par exemple, d'un rêve que j'avais eu, mais c'était plus sur le plan astral, où je m'étais fait attaquer par un serpent. Et le matin, quand j'en ai parlé à mon compagnon, eh ben, lui aussi, il se souvenait que cette nuit-là, il s'était fait attaquer par un serpent. Donc, on avait vécu la même chose. Voilà. Et on s'en souvenait tous les deux. Mais c'est pas nécessaire, en fait, que les deux se souviennent forcément de ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu la même chose sur le plan astral, mais peut-être qu'ils ne ramènent pas l'information vibratoire dans le plan terrestre. Par rapport à ce qu'on vit sur le plan astral, c'est dans notre structure énergétique. Donc, on est impacté quand on se réveille. Parfois, on ne s'en souvient pas non plus forcément. Il y en a qui disent qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves. Pourtant, tout le monde vit des expériences sur le plan astral, même ceux qui disent qu'ils ne se souviennent jamais de leurs rêves. Mais quand on ne s'en souvient pas, on peut quand même en fait, se sentir, en tout cas, avoir ta vibratoire par rapport à ce qu'on a pu vivre dans le plan astral la nuit. Ça impacte notre structure énergétique.
Ok, très clair. Est-ce que je t'ai demandé, tu sais, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a l'impression de l'avoir déjà connu, qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une connexion très forte qui se crée tout de suite avec cette personne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as un conseil?
Non, il n'y a pas vraiment de conseil. Il n'y a pas besoin d'intellectualiser en fait la relation. Si tu es en contact avec une personne et que tu as la sensation que tu la connais déjà, c'est peut-être juste une reconnexion d'âme. Dans la mesure en fait où dans le contrat d'âme c'est prévu, quand on arrive sur Terre, on a des rendez-vous avec les personnes. Soit la personne, bon, on n'a pas forcément une incarnation ou quoi, donc c'est quand même un rendez-vous, mais il y a des personnes avec lesquelles on a eu des incarnations passées, des relations aussi qui ont pu être très fortes, et donc au moment où on se retrouve, et ben, y a ça en fait qui s'active parce que l'âme se souvient. Donc on peut très bien ressentir connexion, ça peut être aussi le mot qui me vient, je ne sais pas pourquoi, ça, c'est ça qui vient, mais comme un mouvement énergétique. Moi, je me rappelle d'une personne que j'avais rencontrée, et au moment en fait, où on avait été en contact face à face, j'avais ressenti comme une vague de chaleur mais puissante qui m'avait traversée dans tout le corps. Et effectivement, en fait, au fur et à mesure de la relation, c'est une personne avec laquelle j'étais proche au niveau de l'âme, avec qui j'avais eu des incarnations passées. Et donc, au moment de notre rencontre, nos âmes, elles se sont retrouvées, et donc c'est ce qui a activé ce mouvement de chaleur. Et cette personne m'avait partagé qu'elle avait ressenti ça. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que ça veut dire qu'on va être dans des relations longues, mais c'est souvent des retrouvailles. Donc c'est pour ça qu'on a ce sentiment de...
C'est comme il y a des fois où on se sent très attiré par une personne, pas forcément juste au niveau attirance physique, mais on se sent vraiment énergétiquement, vibratoirement très attiré.
C'est ça, c'est l'harmonie vibratoire en fait. C'est-à-dire que quand tu rencontres cette personne, tu as accès à son champ d'énergie, à son champ vibratoire. Et si en plus il y a une histoire au niveau des âmes, c'est des retrouvailles et effectivement ça.
Tu la reconnais
et donc il y a un truc qui te pousse, qui t'attire vers elle. Donc, c'est ce que moi j'appelle l'harmonie vibratoire. Et avec d'autres âmes, par contre, ça va faire l'inverse.
Ouais.
Parce que tu peux aussi avoir vécu des choses difficiles avec des âmes, et donc au moment de la rencontre, il n'y a pas une harmonie, mais il y a une forme de disharmonie vibratoire. Voilà, c'est ça, une aversion, et du coup, ça te repousse, et il y a même peut-être des choses qui peuvent remonter. Tu ne sais pas pourquoi à ce moment-là il y a ça, mais c'est tout simplement en fait l'âme qui se souvient, qui se rappelle.
Okay. Et donc pour autant, pas forcément l'obligation de mettre une étiquette, de chercher à caractériser absolument par des termes humains, mais plutôt obéir un peu au mouvement de énergétique qu'on perçoit, et voir ce que la relation peut nous apporter sans l'intellectualiser, quoi.
Ça peut bloquer aussi l'expérience que t'es venu faire en fait avec cette personne, et surtout pour les femmes, il y a vraiment cette croyance en nous de rencontrer l'homme idéal, celui qui va finalement, c'est notre moitié qui va venir combler nos besoins, puis qui va nous rendre heureux. Et ça, c'est vrai, ouais. Et ça, pour moi, c'est vraiment une fausse croyance. Et le cheminement des femmes, c'est de se libérer de cette croyance pour devenir ça. Je parle là des femmes parce que c'est beaucoup les femmes qui ont ça, mais il y a aussi des hommes qui ont ça, et que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est finalement devenir sa meilleure ou son meilleur ami, et de pas attendre en fait que la relation vienne nous rendre complet, parce que il y a, comme tout à l'heure on parlait des relations de flammes jumelles, les relations sacrées, le fait de rechercher ça, on est déjà dans le mental, mais surtout dans l'attente, ça peut créer énormément de frustration, et ça vient invalider les autres types de relations, alors que comme je l'expliquais tout à l'heure, pour moi toutes les relations, elles sont importantes, peu importe l'étiquette qu'on met dessus, en fait elles sont toutes importantes. La seule chose, c'est que au fur et à mesure que l'âme elle évolue, que ce soit dans cette vie ou entre les différentes vies, et ben à partir du moment où elle se sent prête, elle va accéder en fait donc à des relations avec des âmes finalement avec qui elle est peut-être très très proche, et qui vont lui permettre d'accéder à des couches beaucoup plus profondes. Voilà. Et c'est aussi le lien d'âme en fait qui fait la différence dans ce travail d'évolution et de cheminement intérieur. Le but étant, en fait, plus on dissout les couches, plus on libère ces blessures, et plus on peut accéder à qui on est vraiment. Et le but de l'âme, c'est ce que j'avais dit dans la première enregistrement, c'est de pouvoir incarner pleinement son âme sur Terre et de se souvenir qui elle est. Il y a effectivement donc les épreuves de la vie, etc., mais c'est surtout, en fait, pour moi, les relations avec les autres, notamment aussi les relations amoureuses, qui vont nous permettre en fait donc d'accéder à ces couches de plus en plus profondes. Et puis surtout, on ne sait pas ce que ça signifie. On pense que relations sacrées, flammes jumelles, ça a l'air super, ça a l'air génial, l'autre va venir nous compléter, c'est génial, j'ai trouvé ma moitié. Mais en fait, c'est une fausse idée, c'est pas ça du tout l'objectif en fait de ces relations. C'est déjà de faire un premier travail sur soi, seul, ou avec des relations qui vont en tout cas nous aider à travailler ça, pour devenir de plus en plus complet à l'intérieur de soi. Pour, comme je disais tout à l'heure, pour moi le terme c'est vraiment, en tout cas c'est ce qui a été pour moi le cas, c'est devenir ma meilleure amie, et ensuite d'accéder à ce type de relation où à la fois en fait, ça vient ouvrir le cœur, ça vient déblayer des choses au niveau du cœur qui va donc nous l'ouvrir, mais en même temps ben, au niveau du cœur on a beaucoup en fait de mécanismes, de couches de protection et c'est comme si tout ça, ça venait exploser et donc on a accès aussi à toute la souffrance et à la douleur en fait qu'il y a là-dessous, voilà. Et c'est parce que il y a un amour fort et un lien d'âme fort que du coup ça nous aide à accéder à ça. En gros, c'est pas on a fait le travail de son côté, et puis ensuite c'est bon, on est prêt, et puis tout est beau, tout est rose, et voilà, il y a des tensions, il y a de la douleur, comme je disais tout à l'heure. On peut aussi considérer l'autre comme un ennemi, et on a juste envie de tout arrêter et de fuir. Alors pourtant, l'amour est là, mais c'est fort, quoi, ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas toutes les âmes, en tout cas, qui décident de vivre cette relation, en tout cas, dans cette incarnation. Pour moi, en tout cas, je pense que toutes les âmes sont amenés à vivre ce type de relation à un moment donné, parce que comme je disais, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Donc pour aller voir vraiment qui on est et incarner son âme, on a besoin de ce type de relation. Mais l'âme, en fait, elle choisit ça lorsqu'elle se sent prête.
Et pour autant, c'est pas parce qu'on vit ce genre de relation que on est censé entre guillemets finir nos jours avec cette personne.
Exactement. Voilà. C'est pas parce qu'on vit ce genre de relation qu'on a prévu de terminer en fait l'incarnation avec cette personne.
C'est vraiment... On peut choisir de se séparer parce qu'on a terminé l'expérience ensemble, ou c'est plus que c'est trop douloureux et donc on choisit de se séparer et peut-être de reprendre dans une vie future. Hein.
Souvent, c'est parce que c'est trop douloureux. Ça fait trop mal. Donc les âmes préfèrent arrêter et effectivement peut-être. Réessayer et reprendre dans une prochaine incarnation. Ouais. Et souvent, oui, c'est parce que c'est trop, trop douloureux. Et ensuite, quand tu dis finir ses jours ensemble, ça dépend aussi quand on rencontre la personne. Tu vois. Donc, tu peux très bien la rencontrer relativement tôt, je dirais, mais effectivement, c'est trop douloureux, donc les âmes préfèrent se séparer et reprendre dans une prochaine incarnation. Et tu peux aussi, en fait, cheminer, rencontrer la personne beaucoup plus tard et finalement finir tes jours avec aussi. Ouais. Ça appartient à chaque âme en fonction de là où elles en sont. L'autre, c'est un peu comme, je dirais, ton égal au niveau de l'évolution, de là où t'en es. Et c'est pour ça, du coup, que c'est... une personne qui peut venir, enfin, en tout cas cette âme-là qui peut vraiment venir t'aider à travailler des choses extrêmement profondes.
Ben merci beaucoup Mélanie, c'était très riche d'enseignements, très plaisir. Riche d'expérience, et j'espère que ça fera écho dans vos expériences, dans vos questionnements, et que vous trouverez peut-être des réponses que vous posiez aussi. Merci beaucoup.
Avec plaisir. À bientôt.
À bientôt.